Bonjour à tous, nous sommes dimanche, il est 13h, bienvenue dans votre émission Affaires Suivantes. Ravi de vous accueillir avec mon complice Dominique Rizet.
Bonjour Pauline, bonjour à tous.
Nous avons décidé de consacrer tout ce numéro à l'affaire Jubilard, des aveux partiels à la découverte d'ossements au milieu d'un champ. Nous allons revenir ensemble sur ces derniers jours où tout s'est accéléré. Comment Cédric Jubilard a-t-il coopéré? Qu'a-t-il dit sur place pour guider les recherches? A-t-il une stratégie?
Oui, 5 ans et demi après la disparition de Delphine Jubilard, un début de dénouement, bientôt une sépulture, une fois les analyses scientifiques terminées. Comment réagissent les proches de Delphine Jubilard, ses deux enfants? Le procès en appel sera-t-il reporté? Y aura-t-il une reconstitution? On va répondre à toutes ces questions.
Toutes les questions que l'on se pose encore, elles sont nombreuses. Nous allons tenter d'y répondre avec vous, nos experts, nos invités. Affaires suivantes, c'est tout de suite. Ne bougez pas. Bienvenue à tous dans Affaires suivantes, il est 13h06. Merci Dominique de m'accompagner pour ce dernier numéro de
C'est un bonheur,
saison.
Pauline.
Un bonheur. Alors je vous présente mes invités. Karine Dabadi, médecin légiste, co-autrice de Corps, 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 carnet du médecin légiste aux éditions Globe. Merci d'être avec nous. Jacques-Charles Fonbonne, général de gendarmerie, on ne le présente plus, ancien commandant de la section de recherche d'Orléans. Et vous avez aussi été un peu du côté de l'IRCGN, vous nous expliquerez cela. Johanna Rosenblum, psychologue clinicienne, consultante pour BFMT. Merci d'être tous les trois avec nous ici pour nous éclairer sur ce dossier Jubilard qui s'est accéléré effectivement ces 3 derniers jours. Des ossements en cours d'analyse à l'IRCGN à Pontoise, l'identification est en cours, on n'a pas encore de résultats. On va en parler avec François Daous qui est avec nous. Merci d'être là François aussi. Pourquoi est-ce que c'est aussi long? Pourquoi est-ce qu'il faut attendre plusieurs jours? Et y aura-t-il des résultats?
Toute la question est là. Alors il faut comprendre que les os ont été retrouvés après que le corps est stagné pendant plusieurs années dans un tas de fumier, c'est-à-dire de compost, de matière organique en décomposition. Et la décomposition de ces matières accélère le processus de décomposition de tout ce qui est rajouté. À partir de cet instant, les os ont été retrouvés dans un état eux-mêmes où ils étaient rongés par la décomposition. Ce qui fait que il y a un grand risque à ce que la moelle osseuse à l'intérieur de l'os, le fémur qui est pourtant le plus solide et le plus hermétique, ait pu être elle aussi en décomposition. Et à ce moment-là, les bactéries anaérobies qui font cette décomposition massive des fumiers s'attaquent à l'ADN et il pourrait ne pas y avoir d'ADN qui permettrait de confirmer. Donc ce sont des traitements très longs, complexes, pour essayer d'avoir au moins un petit noyau d'une cellule qui permettrait de dupliquer cet ADN et surtout d'en sortir un profil.
Donc, en général, il est possible qu'on ne sache jamais si ce sont bien les restes du corps de Delphine.
Il est tout à fait possible, au regard de la décomposition et de l'état des os, qu'on ne puisse pas confirmer à 100% que ce soit le corps de Delphine Ossagel.
Alors, on a une autre question concernant ce milieu acide. Vous en avez parlé, une décomposition qui s'accélère, mais aussi cet environnement fait que ces os, vous pouvez nous le confirmer, sont extrêmement dégradés, donc difficiles à lire d'une certaine manière.
Tout à fait. Ça, c'est le cas de tous ces composts, terreaux, lisiers ou autres, qui, par les bactéries anaérobies qui sont à l'intérieur et qui font cette décomposition naturelle, et qui montent en azote cet ensemble de masse et de matériaux qui servira d'engrais, parce que c'est l'azote qui est le meilleur engrais pour tout. Et ça accélère, ça acidifie toute décomposition, y compris les os qui risquent de devenir poreux et dès lors, avec le risque de détérioration complète de la moelle osseuse.
Alors, Général Daous, vous restez bien sûr avec nous, vous intervenez à tout moment. Karine Dabadi, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qu'on cherche encore? Et vous avez des confrères, des collègues qui ont été sur place et qui ont aidé justement à l'extraction de ces ossements et qui ont déjà commencé ce travail extrêmement minutieux, ce travail de fourmi sur place dans les derniers jours.
Oui, ben, on cherche. Le problème, c'est qu'on a retrouvé que deux fémurs à ce jour et peut-être quelques autres ossements. Et ce n'est pas encore en entier. Donc, c'est vrai que là, le travail qui est fait sur les deux fémurs, qui sont effectivement des os qui sont longs, solides et dans lesquels, théoriquement, on a le plus de chances de trouver de l'ADN. Mais là, on a très bien compris les limites hein, du fait, effectivement, de la détérioration par le milieu extérieur qui est extrêmement importante. Donc là, la seule réponse qu'on pourra avoir, essayer d'avoir aujourd'hui, c'est est-ce que c'est bien Delphine Jubilard ou pas Delphine Jubilard ? Ça, c'est effectivement une question importante. Par contre, sur toutes les questions que l'on peut se poser sur les causes du décès, on comprend bien que ben, ce que l'on a retrouvé ne pourra pas nous permettre de répondre à cette question, et d'autant plus qu'on n'a pas l'ensemble du squelette, puisque pour pouvoir répondre à ce type de question, il aurait fallu qu'on ait l'ensemble du squelette, tout en sachant que sur des os, on peut répondre à certaines questions, mais pas aux autres questions. Il nous aurait fallu un corps avec, effectivement, des tissus mous, des muscles pour savoir, pour pouvoir répondre à toutes les questions sur les causes du décès, ce que l'on n'a pas.
On ne peut pas, à partir de ces ossements, ces deux fémurs, et autrement qu'avec l'ADN, dire c'est elle, je sais pas si elle avait une fracture à une jambe, si est-ce qu'on pourrait, ou même en mesurant, mais enfin je sais pas, bon, voilà, on a tous des tailles différentes, on connaît sa taille, est-ce qu'à partir du fémur on peut dire avoir une orientation sans que ce soit forcément l'ADN?
Le fémur, enfin,
je sais pas si je suis très clair dans
mais le fémur va permettre effectivement de donner une idée de la taille de la personne, mais
oui.
Plusieurs personnes peuvent avoir la même taille, donc
bien
ça
sûr.
Permet pas de l'identifier. Pour l'identification, on a différentes choses. Effectivement, théoriquement, si on a l'ensemble de la mâchoire avec les dents, on peut comparer un panoramique dentaire. Si on avait eu les dents, on aurait pu aussi rechercher de l'ADN dans les dents, parce que c'est très bien aussi de rechercher de l'ADN. Avec le bassin, si on avait le bassin, on pourrait dire si c'est un homme ou une femme. Mais tout ça, c'est pas Delphine Jubilard. Nous, ce qu'on veut, c'est la preuve que ce soit bien elle. Donc, la seule façon, effectivement, on ne peut plus faire d'empreinte digitale non plus. Il y a différentes façons, en fait, d'identifier la personne. Alors, effectivement, tout est important. Quand on veut identifier un corps, on regarde les tatouages, on regarde la couleur de la peau, les cheveux, le moindre petit détail, le moindre antécédent chirurgical. Si elle avait eu, par exemple, une prothèse dans les hanches avec un numéro de série, on pourrait aussi aller rechercher, mais on n'a pas ça a priori. Donc il y a énormément de façons d'identifier. Là, les choses sont compliquées parce qu'effectivement, la seule chose que l'on a retrouvée à ce jour, ce sont deux fémurs et en plus en très mauvais état.
Mais François Daou, c'est ce que du coup on n'est pas face à un cas d'école pour l'IRCGN et ses analyses en cours, parce que je sais qu'ils ont réalisé des tas d'analyses et des tas de choses compliquées, mais là, en se parlant tous autour de la table, on se dit que d'abord, on a eu infiniment de chance, si je puis dire, de trouver d'abord ces deux fémurs, mais ensuite, le plus dur commence maintenant.
Alors, le plus dur commence maintenant, effectivement, Pauline, parce que on a quelque chose qui nous permet de dire qu'il y a un corps, on est face à presque une aporie, c'est-à-dire une impossibilité si jamais on n'arrive pas à extraire de l'ADN. C'est-à-dire qu'on a toutes les statistiques et les probabilités qui nous laissent supposer que c'est bien le corps de Delphine Ossagel, mais on ne pourra pas l'affirmer avec derrière plein de points d'interrogation qui dit, mais bon, on s'en doute bien, mais on a besoin maintenant de ces preuves formelles, alors qu'il y a 50 ans, le fait de simplement dire c'est là aurait pu suffire. On n'en est plus là, on a besoin toujours de ces preuves scientifiques, et effectivement, le cas école, c'est surtout un cas scientifique à trouver les bons éléments et la bonne parcelle de d'os qui permettra d'extraire l'ADN. Donc là, je pense que des forages, des carottages dans les deux fémur, il y a dû y en avoir au moins une bonne cinquantaine, voir si ce n'est pas le double, pour essayer de la trouver, de la mettre en culture et après en PCR.
Oui, c'est ça, on en est à quel stade là, vous dites de le mettre en culture, c'est-à-dire que on a carotté donc dans l'os, on a cherché de la matière, cette matière on la met dans un appareil spécial, qu'est-ce qui se passe et on en est à quel stade là?
Alors, on met dans des appareils, alors selon l'endroit de l'os qui a été foré, on va faire des broyats. C'est-à-dire qu'on va écraser toutes les cellules osseuses qui sont avec du calcium, du potassium, etc., etc., avec un petit peu de matière, on espère, à l'intérieur, et en plus du résidu de moelle osseuse qu'il y a peut-être au centre du fémur. Mais chaque carottage va être pris individuellement et on va être mis... alors, la culture, ce sont des éléments qui permettent des enzymes pour dupliquer l'ADN s'il existe... c'est voir si c'est noyé de bactéries, c'est mort. Ça veut dire que les bactéries, comme les champignons ou les moisissures, dévorent l'ADN et il ne reste plus rien. Donc, c'est chacun va être traité de façon à pouvoir, si on a une chance, d'extraire de l'ADN.
Mais si on n'arrivait pas à l'identifier, François Daoud, vous avez cette option en tête. Il y a une obligation de moyens, il y a une obligation presque morale du résultat. Mais si la science n'y arrivait pas?
Alors, si la science n'arrivait pas, ce sera la justice de se prononcer. Il faut savoir que il y a en France énormément de corps qui sont découverts sous X et enterrés sous X, mais parfois il y a des accidents où on suppose que la personne, ça ne pouvait pas être une autre personne que celle-là, et c'est la justice qui va déclarer que cette personne décédée est bien la personne auquel on pense. Donc là-dessus, c'est encore une autre procédure, c'est une procédure civile, avec le parquet civil qui va se greffer à côté du parquet pénal pour arriver à dire oui, on donne cette identité à ces ossements.
Alors c'est très intéressant parce que François Daoud, vous restez avec nous, les recherches phase 1, si l'on peut dire, Dominique, se sont achevées vendredi. Donc il faut juste expliquer à nos téléspectateurs, jeudi matin, on a une alerte, des fouilles sont entreprises dans un champ, sur indication de Cédric Jubilard, on va retrouver ces ossements. Ce champ va être exploré, on va comprendre que, selon ses dires, il a enfoui le corps de Delphine dans ce compost, ce terreau. Mais vendredi à 16h, c'est un peu la stupéfaction pour nous, on apprend que les recherches sont terminées.
Oui, en fait, ça a été assez rapide. Et on a appris aussi jeudi que, en fait, les enquêteurs n'avaient découvert qu'une partie basse du corps de Delphine. Donc, évidemment, on s'est posé toutes les questions. Comment c'est possible? Comment se fait-il qu'on ait retrouvé une partie basse et pas le haut du corps? On imagine que cet homme-là n'a pas découpé sa femme. Donc, on a ces éléments. Et puis, on va comprendre assez rapidement que ce corps a été déposé dans du terreau, du fumier, mais c'est difficile de le dire, et que effectivement ce tas de terreau a été épandé, dispersé dans le champ par l'agriculteur, et pas forcément uniquement dans ce champ-là, puisque cet agriculteur il a 200 hectares. Donc, il peut même en avoir donné à d'autres agriculteurs. Donc, il a fallu que les gendarmes, en 48 heures, et ça a quand même été rapide, posent des questions à cet agriculteur. C'est intéressant ce qu'on voit là. Regardez, janvier 2021, c'est le champ dans lequel on a retrouvé le corps de Delphine. Et on voit ce tas de terreau là. On est 3 semaines après la disparition de Delphine, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Mm-hmm. Ce qui veut dire, et on peut supposer, que le corps de Delphine se trouve à cet endroit-là en janvier 2021. Ouais. En mars 2023, donc on est 2 ans plus tard, il reste juste la partie droite de ce tas de terreau, parce qu'il a été épandé, il a été dispersé.
Donc comprenons que la partie gauche a été épandé, utilisé par l'agriculteur qui a été entendu d'ailleurs depuis.
Absolument.
Et qui a expliqué qu'il n'avait pas conscience qu'il y avait probablement un corps sous ce tas de
voilà. Ensuite, mars 2026, c'est maintenant, il n'y a plus rien dans le champ. C'est important parce que les enquêteurs, vous dites, vendredi à 16h, ils sont partis parce qu'ils ont compris qu'il n'y avait plus rien à espérer, plus rien à trouver. Déjà, ces deux fémurs, c'est miraculeux. C'est miraculeux que ces ossements aient été retrouvés.
Alors, Johanna Rosenblum, ce qui est intéressant aussi, au-delà de ces investigations, c'est qu'on a le sentiment quand même que Cédric Jubilard reste un peu le maître du jeu, parce que c'est lui qui donne les indications, c'est lui qui, et vous le voyez sur la photo de mars 2026, il reste plus rien. Mm-hmm. Donc sans lui, on n'a pas l'emplacement, sans lui, on n'a pas les deux fémurs, et sans lui, on ne serait pas là tous autour de la table à en discuter aujourd'hui.
Mais oui.
Donc la question c'est, est-ce que c'est toujours lui qui a la clé? Dans quelle position nous met-il, inconsciemment, consciemment, je ne sais pas?
Toujours la même, Pauline, depuis le début. C'est lui le chef, c'est lui le patron et le maître des horloges. Au début, il nous disait qu'il ne savait pas, il gardait le silence, il pleurait. Et aujourd'hui, il va nous expliquer comment penser et comment comprendre ce qui s'est passé le soir du drame, que la dispute a mal tourné, qu'il a dégoupillé.
Il a dégoupillé, c'est son terme exact. Voilà. Et c'est très intriguant, ce terme, parce qu'il va dire « j'ai dégoupillé », mais il ne va pas expliquer. Il y a toute l'ellipse de la scène de crime.
Inversion de la culpabilité, minimisation des faits, ce sont les propos qui sont aussi rapportés par son avocat. Il aurait, par empathie pour ses enfants, déplacé le corps de sa femme pour leur éviter de voir le corps de leur mère gisant sur le sol. Donc oui, ça dit tout de sa personnalité depuis le départ, c'est-à-dire un homme manipulateur, pervers, avec un défaut d'empathie majeur, capable des pires atrocités et qui n'exprime aucun remords, aucun regret, uniquement de la manipulation, encore et encore jusqu'à aujourd'hui.
Donc le chapitre qu'on nous sert via sa défense, que c'était un moyen de satisfaire une demande pressante de ses enfants, qu'il le faisait au nom de ses enfants, Dominique, ouais, crédible, pas crédible ?
Alors,
stratégie.
Moi, j'ai pas envie d'y croire parce que on connaît tellement bien maintenant Cédric Jubilard qui s'est invité dans l'actualité il y a 5 ans et demi. Et on a tellement commenté sa vie, ses gestes, ses comportements. J'ai pas envie d'y croire. J'ai pas envie de croire qu'il a rendu service à qui que ce soit, à commencer par ses enfants. Non. Il y a des choses qui sont dérangeantes. Alors, ces avocats, Guy et Pierre de Buisson, sont des pénalistes qui ont fait le job, qui ont réussi à le faire parler. Donc
c'est déjà énorme.
Mais ensuite, dans le système de défense, il y a quelque chose. On a l'impression qu'il y a une deuxième victime dans l'affaire Jubilard. Il y avait Delphine. Et maintenant, il y a Cédric Jubilard.
Ses enfants.
C'est la version des avocats qui disent quand même, les enquêteurs se sont très mal, Général Fombonne, comportés avec lui. Ils lui ont mis la pression. En prison, c'est une victime. Il est à l'isolement. Il ne vit plus. On le bourre de médicaments. Donc, il est arrivé à l'audience. Il sait même plus comment il s'appelait. Vous voyez, on a l'impression que lui aussi est une victime maintenant dans ce dossier. Victime de la justice, victime des enquêteurs.
C'est classique, alors, vous allez
non,
dire.
Mais c'est, voilà. Elle est insupportable, cette tendance à humaniser le diable en personne. Moi, je vais vous dire, ce que disaient les comportementalistes experts de la gendarmerie, et ce que nous, on sait en travaillant avec des victimes d'hommes aussi violents, c'est que très souvent, et ce que disait la gendarmerie, et c'est le cas pour Cédric Jubilard, il n'y a pas de psychose, il n'y a même pas de trouble de la personnalité. On est dans la violence pure. Ils ont parlé d'un homme arrogant, ils ont parlé d'un homme complètement éteint, anesthésié émotionnellement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la violence, c'est pas une maladie, c'est un choix. Ok, il a le choix de tuer ou pas sa femme, de violer ou pas sa femme, de protéger ou pas ses enfants. À chaque fois, il a pris la décision.
C'est vrai que vous le répétez à chaque fois, Johanna.
Je le répète à chaque fois. Donc, quand on parle d'un homme qui pourrait être un dommage, une victime collatérale d'un conflit amoureux, quand on parle d'un homme à qui on peut attribuer une remise de peine pour bonne conduite, c'est ne pas comprendre du tout la personnalité et le mindset de ces personnalités criminelles. C'est pas des personnes qui se remettent en question, doués d'empathie, d'autocritique, pas du tout. Ce sont des manipulateurs et il faut arrêter de parler d'aveu. Il n'a pas de conscience à laver, c'est Cédric Jubilard. C'est une stratégie qui ne va lui servir qu'à lui, soit pour transformer ce crime en homicide involontaire, soit pour espérer sortir un petit peu plus tôt, soit pour se faire passer pour une co-victime.
François Daouz, vous voulez intervenir ?
Oui, je rejoins tout à fait Johanna là-dessus. Il faut pas oublier que dans les faits et dans son histoire, il a été violent avec ses enfants. Oui. Il peut être violent avec d'autres personnes à l'extérieur. Et moi, je trouve qu'il y a une violence dans le geste au-delà du crime, c'est mettre son épouse dans un tas de fumier. Je sais que Dominique hésitait à le dire par précaution, etc. Mais le geste est violent, là aussi.
C'est très symbolique.
Exactement.
Jacques Fombonne, vous l'aviez évoqué sur ce plateau hier déjà.
Oui, alors j'aurais complété parce qu'il me vient l'idée sur la personnalité de Cédric Jubilard et sur son besoin d'être le maître du jeu. J'en arrive à me demander, mais c'est vraiment une réflexion qui repose pas sur grand chose si ce n'est sur l'instinct. J'en arrive à me demander, dans l'hypothèse où il aurait été acquitté en première instance, vous savez que l'autorité absolue de la chose jugée fait que, quels que soient les éléments qui surviennent ensuite, on revient pas. J'en arrive à me demander si, après quelques semaines, quelques mois, il n'aurait pas avoué, sous le prétexte d'apaiser sa conscience, sous le prétexte de donner une sépulture à sa femme, simplement parce que je suis le maître du jeu jusqu'au bout, je suis arrivé à vous tromper jusqu'au bout, et j'en apporte la preuve.
Donc stratégie toujours.
Donc stratégie, mais une stratégie qui n'est pas là, une stratégie, c'est pas facile à dire, judiciaire, mais en fait, une stratégie psychologique. Je vous ai eu jusqu'au bout, j'ai commis non seulement le crime parfait, mais en plus, j'ai pas été condamné.
Général, on se posait la question tout à l'heure avec Pauline en préparant l'émission. On disait, comment vous, gendarme, vous avez été patron d'une ESR à Orléans, c'est la ESR de Toulouse qui travaille sur le dossier. On se demandait comment vous vivez les attaques de ces avocats, parce que ce sont des attaques frontales, qui remettent en cause le boulot des gendarmes, que le job n'a pas été fait, qu'en 48 heures, on aurait dû découvrir toute l'affaire. Comment vous vivez ça? Quand on est enquêteur, comment on vit ça? D'ailleurs, vous pouvez même pas répondre. Les enquêteurs, enfin, eux ne peuvent pas se défendre.
Moi, je peux répondre. Je dirais qu'on le vit plutôt bien parce que c'est assez habituel. Maître Dubuisson fait son travail d'avocat. Hein, vous savez, c'est même pas son droit. C'est son devoir d'avocat de mettre en avant tous les éléments qui peuvent sauver son client, qui peuvent amoindrir sa peine.
Non, mais d'ailleurs, il le fait, c'est son droit le plus strict, et on ne peut pas critiquer
Les gendarmes n'ont pas fait leur boulot. L'argument majeur, et je pense en fait, mais j'en parlerai peut-être tout à l'heure, qu'il se retourne contre son client, c'est de dire, le corps a été déposé entre 10 et 15 kilomètres du domicile de Cédric Jubilard. Pourquoi les gendarmes, sur 15 kilomètres, alors qu'ils ont cherché pendant des semaines, n'ont pas trouvé le corps? Sauf que c'est pas les Champs-Élysées, c'est-à-dire qu'on cherche pas dans le caniveau ou contre le trottoir un corps à droite ou à gauche. Si on fait rapidement le calcul, 15 kilomètres, ça définit un cercle de 700 km². C'est 7 fois la région parisienne, avec des bois, avec des lacs, avec des champs, des maisons abandonnées, avec des mines. Hein, Cagnac-les-Mines, hein, c'est là d'où venait Jaurès. Il y a des mines partout. Ça veut dire que ce sont des zones à explorer qui sont extrêmement difficiles.
Il prend son risque, pardon Dominique, il prend son risque parce que souvenons-nous, la nuit du drame, on est en plein confinement, on n'a pas le droit de sortir de chez soi. À l'écouter, il charge Delphine Jubilard dans la voiture, il roule tout feu éteint et il va rouler pendant 10-15 minutes, il laisse ses deux enfants tout seuls à la maison. Il va l'enfuir sous ce tas de terreau. Il aurait pu se faire arrêter n'importe quoi.
Oui, mais après, ça dépend. C'est-à-dire que on peut. Alors évidemment, c'est dangereux. Mais encore une fois, il y a une dimension de jeu. Il y a une dimension de risque. Je dis des choses extrêmement triviales, mais si le corps est dans le coffre, c'est-à-dire une situation qui est complètement anormale, évidemment, s'il y a un contrôle, il risque d'avoir des ennuis. Mais admettons qu'elle soit simplement allongée sur la banquette arrière, avec une couverture. Il se fait arrêter par les gendarmes. Ma femme est mourante.
Je vais à l'hôpital.
Elle est tombée. Je vais à l'hôpital. J'ai pas le papier, l'autorisation de circuler. J'ai prévenu personne parce que je suis parti dans la panique. Il y a un risque, mais il est jouable. Donc, oui, pourquoi pas.
Donc, à se mettre dans son esprit à lui.
Oui.
Tout est calcul.
Oui, moi je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant dans cette affaire, c'est que on a vu dans un premier temps que il donnait des éléments qui finalement allaient en faveur de sa culpabilité. Je l'ai enterré, j'ai commis le crime parfait, mais ce ne sont que des expressions. Il n'y a pas de détails matériels qui mettent les enquêteurs sur la piste.
Il y a une autre question pour vous. À la cote D1667 du dossier. On parle de la voiture, À l'intérieur de l'habitacle et de la malle arrière, le constat est identique. Le pavé de commande de la portière conducteur arraché, l'intérieur du véhicule est particulièrement sale.
On va pas le dire in extenso, mais globalement, qu'est-ce
donc,
qu'on y dit?
Dans cette voiture, il y a sur le tapis de sol de la terre. Il y a de la terre. Donc, question qu'on se pose et qu'on vous pose, si cette terre est analysée à l'IRCGN, on va trouver de la matière fécale animale. Il est là-bas qu'il a posé ses pieds. On va retrouver des particules de paille, en général. On va retrouver de la terre végétale.
C'est ça.
Et on va se dire,
forcément,
quand même, c'est de ce côté-là qu'il faut aller chercher. Donc, si le job est bien fait au départ, on va pas aller chercher dans les rivières, dans les lacs, dans les mines et dans les bâtiments désaffectés. Parce que c'est pas là qu'on va trouver du pardon
oui,
du fumier.
Mais alors oui mais
est-ce que les gendarmes sont passés à côté?
C'est des argiles rouges, c'est un terrain de grès qui est et puis du charbon qui est quasiment le même sur le département et sur la zone. Je pense qu'il y a des éléments dans cette démarche que suit Cédric Jubilard qui consiste évidemment, et c'est normal, à essayer de minimiser les faits. Il y a une démarche qui finalement se retourne contre lui. Il nie avec un dossier qui est accablant, même s'il n'y a pas de corps.
Vous ne répondez pas, là.
Si, parce que je vais y répondre, mais parce qu'elle est dans la logique du raisonnement. Il est condamné. Il se rend compte, forcément, que ce n'est pas la bonne méthode. Donc, L'idée étant de changer de qualification pénale et de reconnaître des faits qui sont moins punis, pour lesquels il risque 20 ans. Il donne des éléments. Il donne des éléments qui, d'abord, en font un collaborateur de la justice, ce qui est toujours bien, et il l'emmène sur les lieux. Qu'est-ce qu'on constate ? Sur les lieux, on est à 10, 15 kilomètres, comme je l'évoquais. C'est-à-dire qu'on est suffisamment près pour qu'il puisse faire le retour, l'aller et le retour, et poser le corps sans l'enterrer dans un délai logique. Ensuite, il place le corps sous un tas de fumier. Effectivement, outre l'aspect psychologique, ça sent très fort. Ça veut dire qu'à part les chiens qui seraient spécialisés dans la recherche de cadavres, ça va être extrêmement difficile. Et avec la dégradation du corps, ça va même rendre la tâche des chiens impossible. Et puis surtout, et j'en arrive là, après cette hyperbole, à votre question, Dominique, c'est du fumier. Ça sent très fort. Il y a de la paille, il y a de la matière fécale animale. Vous vous doutez bien que les gendarmes ont fait l'exploitation. On se rappelle de l'affaire Lelandais, où Lelandais avait lavé la voiture au Kärcher et l'IRCG a retrouvé une goutte de sang. Pourquoi ne retrouve-t-on pas de fumier, de paille? Mon raisonnement d'enquêteur, mais je le prends avec des pincettes et au conditionnel, c'est qu'a priori, avant de remonter dans la voiture, il s'est changé. Et s'il s'est changé, ça pose vraiment la question de la préméditation.
Alors, on va avancer. Ouais, c'est très intéressant. On va avancer. On va revenir dans la foulée sur le récit du meurtre et toutes les questions qu'on se pose avec nous en direct. On est avec Maître Batik, l'avocat d'une partie de la famille de Delphine Jubilard. On va le retrouver dans quelques instants. La préméditation, l'espace de jeu, en fait, c'est quoi ? C'est que il y a quelque chose à jouer sur le plan pénal. On a compris. Pour aller très précisément et de manière pédagogique. Va plaider coups et blessures sans intention de la donner.
Violence ayant entraîné la mort sans intention.
Sur le plan pénal, ça vaut 15 ans, mais 20 ans.
Et 20 ans parce que c'est son conjoint.
Exactement.
Alors que si c'est un homicide volontaire, c'est 30, un meurtre. Si c'est un assassinat, c'est perpétuité.
Très bien. Alors, pourquoi ce dossier nous fascine autant ? Je vous propose de prendre la direction des États-Unis. On va poser la question à Henri Arnaud, notre correspondant, parce que sur la côte ouest, figurez-vous que les Américains se passionnent pour l'affaire Jubilard. Elle éclaire d'autres dossiers chez eux, des meurtres longtemps non élucidés. Écoutez.
Oui, aux USA aussi, l'affaire Jubilard passionne. Les grandes chaînes de télévision comme CBS suivent ce dossier de près. Et pour cause, une affaire presque miroir se joue ici, en Californie. L'individu s'appelle Larry Millett. Il est accusé d'avoir tué son épouse, Maya, disparue depuis 5 ans. Là aussi, aucun corps n'a été retrouvé, malgré des fouilles acharnées dans de nombreux canyons de Californie, comme celui qui se trouve juste derrière moi. Le FBI et même le NCIS, la police judiciaire de la marine américaine, ont mené des fouilles désespérément pour retrouver le corps de cette femme. Sans aveu ni preuve directe, la justice s'est appuyée sur un faisceau d'indices glaçants du poison retrouvé à leur domicile, mais aussi l'individu qui a parcouru des centaines de kilomètres dans sa voiture au lendemain de la disparition. Aujourd'hui, comme en France, un espoir subsiste que Larry Millett, à son tour, finisse par craquer et révèle enfin où se trouve le corps de son épouse.
Alors, de France aux États-Unis, rapidement, Johanna, pourquoi ça nous fascine autant, cette histoire ?
On a une fascination naturelle pour le mal, pour ce qui est interdit, pour ce qu'on ne comprend pas. Et ça a été entretenu aussi par la littérature, par les médias. Regardez, on a longtemps parlé de la femme de Jubilard, de Delphine Jubilard, sans connaître vraiment son nom de famille. On commence à la nommer maintenant Delphine Osagal, comme si elle avait une identité, seulement maintenant, parce qu'on retrouve des éléments de son corps. C'est quelque chose qui existe depuis toujours. Quand vous regardez des séries à la télé, c'est sur les auteurs de féminicides, les auteurs de crimes, très rarement sur le profil des victimes. Cette tendance comme ça à ce qui touche à l'interdit, en fait, qui nous fascine, parce qu'on n'a pas de réponse, on n'a pas d'explication.
Alors, Dominique.
Ouais, je voulais poser une question à Johanna. Quand il va arriver devant la cour d'assises, ça va plus être le même Cédric Jubilard. C'est un homme neuf qui est passé aux aveux, qui a rendu service à la justice.
Est-ce
qu'on va le regarder différemment?
Mais pourquoi c'est plus le même? Pourquoi c'est un homme qui est passé aux aveux?
Je vous pose la question.
Mais c'est c'est le même, il est dans la continuité de sa stratégie, il a juste changé de stratégie, comme au poker en fait. Il avait une façon de jouer jusqu'avant le féminicide de sa femme, une façon de jouer pendant 5 ans derrière, le mari qui pleure, qui cherche sa femme, qui n'a rien fait, et là il change de stratégie, c'est tout. C'est toujours le même. Mm-hmm. Il n'y a pas de transformation de ce côté-là. On est sur un continuum d'une personnalité perverse et manipulatrice. L'information change, le temps évolue,
mais lui s'adapte. Mais lui ne change pas.
Absolument pas.
Alors avec nous en direct, on va retrouver Maître Mourad Batik, l'avocat d'une partie de la famille de Delphine Ossaguer. Justement, on en parlait à l'instant. Bonjour, merci d'être avec nous, maître.
Bonjour.
Vous entendez les échanges sur le plateau et notamment les propos de Johanna qui explique qu'il est le même, il n'a pas changé, simplement il change de stratégie. Vous partagez cette lecture ?
Oui, parfaitement. Je partage complètement la lecture qu'a fait Johanna. C'est simplement une évolution de la stratégie et autre qu'une évolution de la stratégie. En réalité, ce que Cédric Jubilard fait depuis le départ, c'est qu'il adapte sa stratégie à ce qui lui sied le mieux, à ce qui est le mieux pour lui et uniquement pour lui. C'est une énième mise en scène de sa propre personne qui n'a qu'une volonté, qui n'a qu'une vocation, c'est servir ses propres intérêts. Dès lors que Cédric Jubilard sert ses intérêts, il fait évoluer sa stratégie et ça n'est que pour lui, par lui et uniquement dans un objectif qui est le sien. Dominique Rizet en a parlé, il veut évoluer et venir comme une espèce de jubilard nouveau devant la cour d'assises. En réalité, il ne viendra devant la cour d'assises pas comme un jubilard nouveau, mais comme un jubilard qui a évolué et dont personne n'est dupe. Les ficelles sont extrêmement grossières sur la façon dont il présente sa stratégie nouvelle, qui n'a qu'une vocation, c'est de diminuer la peine. Et ça, personne n'en est dupe.
Alors maître, est-ce que vous pouvez imaginer, vous, il a été condamné à 30 ans, est-ce que vous pouvez imaginer, vous, qu'il puisse, là, lors d'un prochain procès aux assises, être condamné à 25 ?
Alors, c'est évidemment l'objectif de la défense en expliquant que le procès a été dur, que le procès l'a fait évoluer, et que finalement, s'il n'a pas pu dire là avant, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est simplement parce qu'il était écrasé sous le poids des médias, sous le poids des enquêteurs qui ne lui ont pas permis d'expliquer et d'exprimer sa vérité. Je rappelle une chose, c'est que Cédric Jubilard, pendant les 6 premiers mois, et ça doit vous rappeler un procès, ça doit vous rappeler une affaire, ça vous rappelle le dossier d'aval, il est partie civile. Cédric Jubilard, pendant 6 mois, est victime. Cédric Jubilard, pendant 6 mois, n'a aucune pression. On l'amène, on le pousse à effectivement dire ce qu'il sait. Et pendant 6 mois, il va pleurer, il va participer du bout des doigts aux recherches. Il va expliquer que c'est un amant, c'est probablement l'amant, c'est probablement un départ en Syrie, c'est probablement une conversion au témoin de Jéhovah. Et donc pendant 6 mois, il n'a aucune pression et il va quand même décider de s'enferrer, de s'enfermer dans des mensonges indignes, dans des mensonges ignobles, dans des mensonges odieux. Pourquoi est-ce que je parle de mensonges indignes, ignobles et odieux ? Bah parce qu'aujourd'hui, 5 ans et demi plus tard, quasiment 6 ans plus tard, qu'est-ce qu'on retrouve de Delphine ? Deux fémurs planqués dans un tas de fumier, dans un tas de terreau, et donc l'impossibilité définitive pour la famille aujourd'hui de pouvoir se recueillir sur une tombe digne de ce nom.
Qu'est-ce qui manque, selon vous, dans ce dossier en forme de puzzle, si je puis dire ? Parce que, si, à vous écouter, tout a été calculé. Alors, j'imagine que la douleur est immense pour les proches de Delphine Jubilard, parce que de sépulture, ils en ont besoin, et on l'a souvent répété ici, et il faut avoir une pensée pour eux. Mais qu'est-ce qui manque maintenant, selon vous ?
Bah, il ne manque plus rien, on n'a que des regrets, des remords, on ne peut que regarder dans le rétroviseur en se disant si les choses avaient été faites autrement, eh bien évidemment nous ne serions pas dans cette situation aujourd'hui. Et donc cette situation, on a parlé de regrets et de remords, nous ne sommes pas face à des regrets et des remords, nous sommes face à une colère, à une vraie colère de la famille, à une vraie colère des parties civiles que je représente. Pardon, désolé, les aléas du direct, s'il te plaît, merci.
Les intérêts de la famille donc, que vous représentez, effectivement, de la douleur, de la colère, on l'a entendu, Maître Batik. Dominique, vous avez une question ?
Non. J'ai pas de question. Moi, j'imagine juste cette surprise si la condamnation passe de 30 à 25, ou à moins même. comment ça va réagir?
En fait, nous ne souhaitons pas qu'il y ait une réduction, parce que ça voudrait dire que depuis le début, Cédric Jubilard impose son tempo. Depuis le début, Cédric Jubilard est le maître des horloges. J'ai d'ores et déjà utilisé cette expression. Et donc, ça voudrait dire qu'à partir du moment où Monsieur Jubilard décide de nous donner ce qu'il reste du corps de Delphine, eh bien, il y aurait une forme de crédit à lui accorder. Non, je suis désolé. Aujourd'hui, c'est trop, nous ne pouvons pas accepter ça.
Je vais vous choquer, mais est-ce que la justice peut pas considérer que il a quelque part rendu, je mets des guillemets partout, rendu un service, et que la justice doit dire voilà, nous aussi on doit montrer l'exemple. Quelqu'un qui est capable de faire des aveux, ça peut être aussi donner des idées à d'autres. On va réduire sa peine parce qu'on considère qu'il a fait un pas en avant. Est-ce que la justice peut pas aussi fonctionner comme ça?
Non, mais j'aurais probablement, vous savez, cher Dominique, la position qui est la mienne. J'essaie d'être toujours dans une forme de justesse et dans une forme de mesure quand je prends la parole. Et j'aurais évidemment presque plaidé pour le cas de Cédric Jubilard s'il nous avait rendu le corps au bout de 6 mois, au bout d'un an, au bout d'un an et demi. On connaît ces systèmes où on s'enferme, où on se bloque dans un système de mensonges. Mais là, vous voyez bien qu'il avait des possibilités multiples et infinies et qu'il ne les a pas saisies. Et que donc, ne pas avoir saisi ces opportunités, c'est quoi au final pour nous? Eh bien, c'est avoir 2 fémurs qui sont aujourd'hui déterré d'un tas de fumier, et ça ne peut pas être porté à son crédit. On ne peut pas porter à son crédit ce que l'on a trouvé aujourd'hui en disant on a trouvé 2 fémurs, pardon de parler aussi trivialement, mais c'est ça la réalité de ce dossier, c'est qu'on a trouvé 2 tas de fémurs, et pour ces 2 fémurs dans un tas de fumier, et que donc pour cela on doit lui accorder un crédit des réductions de peine. Non, je crois que ça n'est pas audible et que ça n'est pas convenable. Alors j'entends du côté de la défense, on se gargarise en parlant de moments historiques, en parlant de réconciliation, en parlant de Jubilard nouveau. Nous ne nous inscrivons pas dans cette lecture, face à cette lecture. Et évidemment, c'est une lecture que nous repoussons très fortement et très fermement. J'ai parlé de colère du côté des parties civiles. C'est évidemment une colère qui ne se dissipera pas de sitôt.
J'ai entendu votre indignation, Maître Mourad Batik, mais j'ai entendu aussi une autre expression que vous avez utilisée et qui m'interpelle, moi. Si les choses avaient été mieux faites, est-ce que vous pouvez préciser votre pensée et vers qui pensez, à qui pensez-vous précisément? Pas écoutez, forcément qu'à Cédric Jubilard.
Non, mais les choses, du côté des parties civiles, on n'aurait rien pu faire de plus. Du côté du procureur, des magistrats instructeurs, pour le coup, il faut le dire, ils ont été traînés dans la boue tout le long du dossier en expliquant que c'était à cause d'eux et qu'ils participaient et que je participais, que nous participions à une énorme erreur judiciaire, que le dossier était vide, que Cédric Jubilard n'y est pour rien. Et on nous a dit pendant 3, 4, 5 ans, alors que je venais notamment sur votre plateau expliquer que le dossier n'était pas vide, que je me trompais. Donc, effectivement, de ce côté-là, nous ne pouvions rien faire de mieux, rien faire de plus. Nous avons strictement rien fait d'autre que lire le dossier, de dire ce qu'il y avait du dossier et d'essayer de faire en sorte que Cédric Jubilard évolue. Et jusqu'au procès de première instance, il a décidé de rester bloqué dans ses dénégations. Et donc, aujourd'hui, il devra en assumer la responsabilité. Et malheureusement, nous assumerons avec lui la responsabilité de ses choix, puisqu'aujourd'hui, je dois dire à mes clients qu'ils seront dans l'impossibilité définitive de se recueillir, de pleurer et de parler à Delphine.
Alors, vous restez avec nous, Maître Patrick Jacques Fombonne.
Oui, une remarque sur le risque aux assises. C'est un jury populaire. On n'est pas en droit, on est davantage sur les faits. On a tous autour de cette table des dizaines d'exemples où des gens ont été condamnés à perpétuité en première instance et où la cour d'assises d'appel les a acquittés sur les mêmes faits, avec les mêmes témoins, avec les mêmes éléments.
Bon, là, l'acquittement, je pense quand même, peut l'éloigner.
Mais pour situer l'enjeu en termes de différence. Là, qu'est-ce qui se passe? Il se réhumanise en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il quitte l'habit du monstre qui a tué la mère de ses enfants avec les enfants dans la pièce à côté, et il devient un homme bafoué, trompé par sa femme, qui pourrait avoir une réaction. Alors, ça reste un féminicide, ouais. Je le dis.
Non, Johanna
je
Rosenblum fait non de la tête.
La réaction, c'est voilà.
Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que du point de vue des jurés, c'est-à-dire du point de vue des gens qui seront dans cette cour d'assises, ça peut appeler quelque chose qui est un sentiment, certes, complètement inacceptable, mais qui est un sentiment humain. C'est-à-dire quelque chose que le commun des mortels, et je prends toutes les précautions pour le dire évidemment, que le commun des mortels pourrait ne pas accepter, mais comprendre. Alors que personne ne comprend qu'on puisse tuer la mère de ses enfants avec ses enfants à côté. C'est ça que je veux dire. Et à partir de là, on peut plaider effectivement l'accident mortel ayant suivi des violences volontaires, même si chacun sait que c'est le système de défense qui est toujours le même de la part des féminicides.
Johanna.
Oui, je comprends ce que dit Jacques et j'imagine assez facilement en fait que certaines personnes pourront avoir cette lecture de l'histoire parce que c'est ce qu'on a toujours dans les violences, c'est ce qu'on a toujours dans les violences faites aux femmes, aux enfants. Ah, il a commis un inceste, mais lui-même avait été victime de violences sexuelles dans l'enfance. Ah, mais il est violent à l'égard de sa femme et ses enfants, mais bon, il a été placé dans un foyer quand il était petit. Donc on a tout le temps cette capacité à rationaliser, minimiser. Mais là, franchement. Ça dit juste quelque chose de l'horreur, de la violence et de la prédation de cet homme-là, en fait. Pour moi, il y a rien de réhumanisant. C'est encore plus humiliant, oui, encore plus totalement atroce et macabre que ce qu'on aurait pu même imaginer au départ, je trouve.
Karine, oui, moi, je me permets juste d'intervenir. On prend en charge, effectivement, notre grosse activité aussi en tant que médecin légiste, c'est aussi les vivants, en fait. Et entre autres, les femmes victimes de violences conjugales et les violences sur les enfants. Moi, la lecture que j'ai effectivement de ce dossier, c'est qu'on n'a que la démonstration de la violence qu'a pu subir cette femme tout au long de sa vie avec cet homme, en fait.
Et aussi, et ce petit garçon, et ce petit garçon qui l'avait dit.
Et avec cette position extrêmement courageuse, parce que ces enfants, on dit toujours, quand on les prend en charge, souvent les femmes nous disent, non mais les enfants, ils n'ont pas vu ou pas entendu. Les enfants, ils entendent toujours et ils voient toujours ce qui se passe dans la maison. Et quand on voit les images même de la maison, c'est un peu chaotique en fait ce qui se passait dedans, mais en fait c'était la traduction du quotidien de ces enfants et de cette femme. Et le fait d'aller mettre ce corps, pour moi en fait, ce nid de fumier en quelque sorte, ce n'est que pour moi un facteur aggravant, oui, parce qu'en fait c'est vraiment montrer... Mais jusqu'au dernier moment, il lui a pris sa vie, il lui a pris son corps, il lui a pris sa façon de penser, et là il va lui prendre même en fait... le droit de partir, oui, en fait, dignement.
Oui. Elle n'est plus, voilà, à la surface de la Terre. Il l'a supprimé, la surface de la Terre. Mais vous savez, moi, pour moi, la vraie info, c'est pas qu'on arrive à découvrir chez cet homme une once d'humanité. Vous savez, en France, on est très fort pour compter les mortes. Ah, les mortes de féminicides, on les compte, il suffit d'aller sur les sites d'associations. Mais repérer les hommes dangereux, les prédateurs, on ne sait pas faire. Bon, vous prenez l'exemple dans Liana. Il faut arriver jusqu'au bout du bout du bout pour se dire, ah, mais oui, lui.
Il y avait des signaux.
Mais bon sang, on est sur un continuum quand il s'agit de violence. On part des petits délits, de la manipulation, des violences psychologiques. Au coup, on commence à créer un climat anxiogène et violent dans la maison, et on brutalise les enfants, et on menace, on tue. On est donc un continuum sur des années. En fait.
On voudrait vous en parler des enfants. On voudrait vous en parler. Hier, C'est dans l'air, l'émission d'Aurélie Casse, sur France 5, il y avait une consoeur journaliste, Nathalie Pérez, qui travaille à France Télé, et qui a raconté une anecdote. Et je voudrais que vous nous disiez, ce que vous en pensez. Elle nous a raconté que le petit garçon, Louis, qui a aujourd'hui 11 ans, eh bien, au mois de juin, c'est elle qui raconte ça, parce qu'elle est en contact avec la famille qui élève maintenant les deux enfants. Eh bien, au mois de juin, il a fugué. Louis a fugué de l'école avec une copine de son âge. Laquelle copine lui a raconté que son papa était violent, qu'il la battait. Et Louis a emmené cette petite fille, parce que lui-même qui était victime de violence, a emmené cette petite fille, il a fugué avec elle, on les a retrouvés. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Oui, il a reçu le récit de cette camarade d'école et il a fugué avec elle pour la protéger de son père violent. Ça dit deux choses. C'est-à-dire qu'on est non seulement dans une prise en charge d'enfants endeuillés, qui vont commencer un vrai deuil, parce que jusqu'à présent, on était dans ce qu'on appelle en psychologie un deuil ambigu. C'est-à-dire, on va te dire, oui, ta maman est morte, mais bon, en vérité, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de sépulture. Donc, est-ce que maman, elle n'a pas préféré partir pour s'occuper d'autres enfants? Est-ce que maman, finalement, elle préfère pas une autre famille? Est-ce qu'elle n'est pas cachée quelque part? Est-ce qu'elle ne va pas décider de revenir? Donc, c'est des deuils impossibles. Donc, il y a un travail psychologique à faire sur le deuil, mais il y a un travail à faire sur le psychotrauma. Et l'anecdote, le récit que fait Dominique illustre vraiment ça. C'est des enfants qui sont polytraumatisés. Il ne faut pas croire qu'ils n'ont rien vu, comme le dit Karine. Ils ont tout vu,
ils ont tout
perçu, tout senti de la souffrance de leur mère et de la violence de leur père. Mmh. Donc c'est une prise en charge qui est extrêmement complexe, qui va continuer à croître parce que eux, ils grandissent, ils lisent, ils ont accès aux réseaux sociaux, à la presse. C'est facile hein, d'aller sur Internet et de faire des recherches. Donc c'est une prise en charge extrêmement complexe et très sérieuse, comme des centaines de milliers d'enfants en France hein, qu'on n'entend pas, qui parlent et qu'on n'entend pas.
Mourad Batik, vous voulez intervenir, vous partagez cette lecture sur le plateau ? Vous m'entendez ?
Cette lecture, Oui, je vous entends. Je ne sais pas si vous me recevez.
Je partage
complètement cette lecture. Johanna a parfaitement raison de le dire. Peut-être qu'au bout de l'imaginaire de certains de mes clients, ils imaginaient peut-être que un jour on la retrouverait puisqu'il n'y avait pas de corps. Donc peut-être que ces thèses de départ en Syrie, de témoins de Jéhovah, de départ volontaire, d'un amant qui aurait eu raison d'elle, et bien peut-être que tout ça conduisait dans certains rêves à ce qu'on puisse la retrouver un jour. Aujourd'hui, c'est très dur parce qu'on sait de manière définitive qu'on ne la retrouvera pas et on ne retrouvera même pas son corps. Je le dis depuis plusieurs jours, en droit de la guerre, quand vous faites la guerre à un ennemi, c'est régi par le droit de la guerre, vous devez rendre le corps de l'ennemi décédé. Et Cédric a été plus loin qu'une guerre. Il a confisqué définitivement le corps de Delphine qu'on ne retrouvera vraisemblablement jamais. Et c'est terrible.
Pour l'annihiler, en fait, c'est ce qu'on ne comprend, pour l'effacer. Est-ce que c'est ça, cette
il
stratégie
l'a dit, il l'a dit à plusieurs reprises. Si Delphine ne m'appartient pas, elle n'appartiendra à personne. Et force est de constater qu'elle n'appartiendra à personne, ni de son vivant, ni même de sa mort. Écoutez, à quel point c'est grave, à quel point c'est dur. Elle n'appartiendra à personne d'autre qu'à lui, ni de son vivant, ni de sa mort.
Il l'a tué deux fois, en quelque sorte.
Il l'a tué deux fois.
Il l'a tué deux fois. Une fois de la vie à la mort et une deuxième fois de la mort au néant, à l'inexistence.
Est-ce que vous pensez, dans ces conditions, Maître Batik, qu'une reconstitution est certes nécessaire, mais à tout ce qu'on se dit sur le plateau, est-ce que Cédric Jubilard, il sera en capacité d'expliquer, de refaire les gestes depuis cette maison qu'on voit d'ailleurs sur notre écran, la scène de crime. Cette maison emmurée, en chantier, où il n'y a rien qui est droit, si je puis dire, jusqu'à ce champ et ce monticule qui aujourd'hui n'existe plus. Est-ce qu'il peut être en capacité de le faire? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut attendre de cet acte d'enquête?
Moi, je n'attends rien de Cédric Jubilard. Je pars du principe et du postulat que tout ce qu'il va dire sera faux ou ne sera dit que pour servir ses propres intérêts. Donc, ce que va nous dire Cédric Jubilard, maintenant que l'on n'a pas de corps, maintenant que l'on n'a pas de scène de crime, maintenant que l'on n'a rien qui nous permettra de corroborer ses faits et sa version.
Ok, on a un petit problème de liaison avec Maître Batik, on vous retrouve dans quelques instants.
Je complète. Complète. Alors, deux choses. D'un point de vue procédural, nul n'a l'obligation de s'auto-incriminer. Ce qui veut dire qu'il peut être extrait de sa prison, arriver dans le camion de la gendarmerie et dire finalement je ne descends pas parce que je vais reproduire des actes qui m'accusent et je ne veux pas le faire. Mm-hmm. Et puis ensuite, l'intérêt d'une reconstitution, c'est toujours une reconstitution de détails. C'est-à-dire qu'on sait ce qui s'est passé, mais on va vérifier, un exemple trivial, que l'auteur dit qu'il a tiré sur cette victime, et en fait, on s'aperçoit qu'il y a un meuble, qu'il y a un objet, qui fait qu'il ne nous dit pas la vérité. Là, on ne sait absolument rien. Donc, il est tout à fait en droit de ne pas y participer, et ensuite, il pourra, sur les faits, sur la scène de crime, jusqu'au moment du dépôt du corps, raconter, comme le dit Maître Batik, c'est pour ça que je voulais compléter, ce qu'il veut, et ça sera de toute façon invérifiable, et ce qu'on dit depuis une heure, c'est qu'effectivement, il va pas y aller sans y avoir réfléchi, il va y aller en proposant aux enquêteurs, la version minimum des faits qui sera encore une fois
satisfaite. Effectivement, docteur, quand on a un corps, une expertise réalisée par le légiste, eh bien, on peut la confronter, on peut l'opposer à la version de celui qui participe à la reconstitution.
Oui, c'est le.
Mais là, on n'a pas de corps.
C'est le principe de la reconstitution, d'ailleurs, puisqu'on participe nous aussi en tant que médecin légiste aux opérations de reconstitution, et donc on va pouvoir effectivement le confronter notre version, c'est-à-dire nous ce qu'on a pu trouver sur le corps, en fait, puisque nous. Tout ce qu'on dit, en fait, c'est ce qu'on constate, en fait, c'est ce qu'on voit. Mmh. Et ce que je veux dire, c'est qu'il peut pas avoir de choses imaginées
d'interprétation,
comme d'interprétation des choses, en fait. On a telle lésion, on a telle cause du décès, on a telle personne, on a telle arme a priori qui a été utilisée. Voilà, on va pouvoir dire, mais c'est concret. Et on va pouvoir confronter lors de la reconstitution, effectivement, à ce que dit l'auteur des faits ou le supposé auteur des faits, puisqu'à ce stade, il est supposé auteur. Cependant, là, on n'a pas de corps. Parce que deux fémurs, et comme on dit, ça ne nous permettra de répondre à aucune question sur les causes du décès. Ça, c'est certain, quoi. Donc, effectivement, il n'y aura que sa version, confrontée aux données de l'enquête. Mais les données de l'enquête, après...
Sur ce point-là, il n'y en a pas.
Voilà, exactement. Sur le point du transport entre le lieu où se passeraient les faits et le lieu de découverte de ces deux fémurs, parce que après on ne trouve que deux fémurs. On a compris pourquoi effectivement on peut se dire il y a l'épandage, il y a le fumier, il y a cette décomposition et tout ça. Il y a aussi a priori d'autres petits ossements, on ne sait pas ce qu'ils sont, qui auraient été retrouvés avec le fémur, mais on peut se poser aussi beaucoup de questions. Est-ce que c'est la totalité du corps aussi qui a été déposée sous ce tas de fumier?
Parce qu'on n'a en fait que des parties qui sont non identifiantes par rapport à des faits criminels.
C'est étonnant. Voilà.
On avait une autre question aussi là-dessus. Est-ce que la reconstitution elle pourrait permettre, s'il y faisait une gaffe, de prouver qu'il a prémédité son geste.
Une gaffe, vous dites ?
Une gaffe, s'il faisait une gaffe au moment de la reconstitution.
Ouais, tout est toujours possible, mais je me fais, j'allais dire l'avocat du diable, mais l'avocat de Jubilar en disant, attendez, il a eu une confusion de parole. Il a tourné à gauche au lieu de tourner à droite. Il a dit que la voiture était dans l'autre sens. Il a expliqué des éléments qui militeraient en faveur de son innocence. Mais, monsieur Rizet, on est dans une situation extrêmement anxiogène. Mm-hmm. Il y a un juge d'instruction, il y a un médecin légiste, il y a le procureur de la République, il a un gilet pare-balles, il a les gendarmes de chaque côté. C'est une situation extrêmement, extrêmement anxiogène. Monsieur Rizet, vous êtes accusé d'un meurtre, vous êtes accusé d'une infraction qui va bouleverser le reste de votre vie. Est-ce que dans cette situation, vous n'auriez pas, vous aussi, commis cette erreur bénigne que l'on va maintenant reprocher à mon client ? Évidemment qu'on aura encore une fois le doute, mais c'est ce que disait François tout à l'heure, on arrive devant la cour d'assises, et c'est ce que je voulais dire avec la perception qu'il veut donner de sa psychologie au moment des faits, on arrive devant une cour d'assises, devant des citoyens. Et c'est ça, je dirais, la réalité de la justice de la République, de la justice du peuple. C'est-à-dire que c'est, vous savez, c'est l'article 353 du code de procédure, l'impression qu'on fait sur les jurés, les éléments de l'accusation et les moyens qu'il a rapportés pour sa défense. Et ça n'est que ça.
Maître Batik, vous êtes encore avec nous, je me tourne vers vous. Le procès le 21 septembre, il paraît intenable, Dominique, à cette date-là, vu au regard de tout ce qu'il faut faire, notamment cette reconstitution en temps réel, enfin dans les mêmes conditions, en décembre peut-être, c'est ce qu'on peut imaginer.
Et ça, ce serait l'idéal, hein, la reconstitution de l'affaire
dans
la nuit du 15 au 16 décembre, dans les mêmes conditions, à la même heure, la ville sera vide, à 23h, je crois que c'est 23h que les voisines entendent, 23h07, entendent des cris. Dans la reconstitution, on fera aussi, les voisines seront là, et quelqu'un va prendre la place de Delphine Jubilar, ce sera sans doute une femme gendarme, et donc c'est le cri, on verra, on entendra si
mais là, il y a une scène qui est susceptible d'être dynamique.
Ah, dans la maison, vous voulez dire.
Donc ça sera forcément quelqu'un.
Alors ça, c'est la scène de crime, donc reconstitution sur place. Mais alors, ça, ce qui est intéressant aussi, c'est après, le trajet en voiture qu'il a parcouru, c'est 10-15 kilomètres, lumière éteinte, parce que la voiture de sa femme est un vieux modèle, on peut rouler sans les veilleuses et sans rien. Donc, aller jusque là-bas, et puis, est-ce qu'on peut imaginer donc ça, et que sur place, on lui dise, voilà, monsieur, maintenant, grattez dans le terreau, et montrez-nous comment vous avez...
Attendez, bougez pas, parce qu'il y a François Daoust.
Personne ne bouge.
Non, François Daoust qui est à distance et qui veut intervenir, parce que comme il nous entend, évidemment, il veut participer.
Oui, merci, Pauline.
Il est un peu là pour ça. Hein.
Exactement. Il y a, vous parliez tout à l'heure d'éléments d'enquête par rapport aux gestes qu'il avait pu faire ou ne pas faire et qu'il n'y avait pas grand-chose. Il n'empêche qu'il y a deux témoignages, dont notamment sa compagne pendant qu'il était en détention, qui donne énormément, qui a donné tous les éléments, où était le corps, comment il était, et surtout, comment il l'avait tué.
Alors attendez, c'est moi qui vais vous couper. On va l'écouter parce que on parle de Jennifer, l'ex-compagne effectivement de Cédric Jubilard, qui avait accordé une interview il y a quelques mois à Maxime Brandstetter et qui effectivement revient sur ce point précis. On l'écoute et on en parle avec vous après.
Il m'explique qu'il passe à l'acte en me disant qu'il a étranglé parce que le lendemain c'est un jour de reconfinement et en fait il me dit que c'est le soir parfait. Et moi, il m'a dit qu'ils ne se sont pas disputés, qu'en fait, elle allait vers le canapé et qu'il l'a étranglée et qu'elle n'a pas pu pousser de cris. En fait, je ne sais pas comment ça se fait, mais en fait, du coup, elle avait la couette, la housse de couette sous elle après et qu'il ne savait pas, mais en l'étranglant, elle a fait ses besoins sur la couette et la housse de couette.
François Daoust.
Oui, donc on a une description d'un geste, d'étranglement. Geste d'étranglement, et Madame Dabadi me le dira certainement mieux que moi, que ça soit par étouffement ou par strangulation, c'est entre 2 et 4 minutes avant que l'on décède. À partir de ce moment-là, on a tout le temps de réfléchir à son geste. Donc ça c'est pour l'histoire, il a dégoupillé. Non, il a au fur et à mesure, il a bien réfléchi. Mais cette version, j'ai peur je pense qu'il va la contester en disant « Mais non, j'avais raconté ça comme ça, ce n'est pas le cas. » C'est un coup violent et elle est tombée et elle était morte. Donc, pour accréditer le fait que ça a été une réaction et non pas une action de l'or. À partir de là, on voit très bien toute la stratégie de la défense et elle est d'autant plus facilitée, comme disait tout à l'heure notre docteur sur le plateau, c'est qu'il n'y a pas les parties essentielles du corps qui permettraient de confirmer ou un étouffement ou une strangulation, etc. Et on n'aura que sa version à lui qui va s'adapter au fur et à mesure des expertises présentes, des éléments indiciels qui existent ou qui n'existent pas, comme avait fait Nordal-Lelandais, qui n'a parlé et n'a dit que quelques éléments chaque fois qu'il était confronté à un élément indiciel qu'il ne pouvait pas contester. Donc, on voit bien que ça reste dans sa stratégie, dans sa façon d'être, et je ne serais pas étonné si les fameuses lunettes que tous les avocats nous ont dit « mais c'est n'importe quoi, rencontre les experts, c'est pas un coup, elles sont tombées, etc. » ne reviennent pas sur le devant de la scène en disant « vous voyez bien qu'il y a eu un coup ». Vous voyez bien qu'elle a dû, à cause de ça, tomber, chuter, et c'est en se cognant par terre qu'elle est morte. On sent bien qu'il y a là tous les ingrédients pour avoir une nouvelle version, et que cette version, eh bien, elle est là pour être coups et blessures volontaires et entraîner la mort sans intention de la donner.
Merci François Daoust. Karine Dabadi, cette fameuse notion d'étranglement. Et Jennifer, l'ancienne compagne de Cédric Jubilard, a même expliqué que lors d'un parloir, il lui avait mimé le geste. Qu'est-ce que ça donne sur le plan légiste, si je puis dire? Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de traces et on ne peut le détecter qu'à l'aune de petits ossements dont on a suffisamment parlé, mais dont on n'est pas en possession aujourd'hui.
Alors, si on avait eu le corps tout de suite, il y a effectivement cette fracture de l'osseoïde qu'on peut rechercher dans le cadre d'étranglement, pas d'étouffement. Mais il y a d'autres choses, effectivement. Il y a ce qu'on appelle un syndrome asphyxique, que l'on retrouve une cyanose au niveau de la face, des extrémités, des lèvres, une congestion de l'ensemble des organes, c'est-à-dire que tous les organes, en fait, vont gonfler, vont devenir remplissait ces syndromes asphyxiques, ce qu'on appelle la congestion polyviscérale. Il y a aussi des infiltrations hémorragiques qu'on peut retrouver au niveau, par exemple, quand il y a des manœuvres d'étouffement autour de la bouche. Ça se voit pas comme ça à l'œil nu, mais si on récline les plans, on peut le retrouver. Donc, il y a différents éléments. Si on avait eu le corps tout de suite, on aurait pu répondre à cette question. Ça, c'est certain. Et faut savoir qu'effectivement, dans ce type de manœuvre, la perte de connaissance quand il y a une strangulation ou une manœuvre d'étouffement, elle se vient dans les 20 à 30 secondes. Et effectivement, dans les 2 à 4, 5 minutes, le décès survient. Donc, il a le temps de réagir. C'est-à-dire qu'elle va perdre connaissance. Là, elle bouge plus. Et il continue, voilà, jusqu'au décès. Donc, mais en tout cas, si on avait eu le corps tout de suite, on aurait pu répondre à cette question.
Ce qui n'est pas le cas.
Ce qui n'est pas le cas, voilà.
Sur la déclaration de Jennifer, et quelque chose qui peut être intéressant, du point de vue de sa défense.
L'ex-compagne,
à qui il a dit finalement énormément de choses. Et on le relit maintenant à l'aune de toutes ces déclarations.
Mais est-ce qu'on ne peut pas le relire d'une façon différente? C'est-à-dire, je suis accusé, et notamment, on m'accuse d'avoir menti pendant 5 ans. Là, j'ai dit quelque chose, et comme par hasard, il faudrait que ce soit la vérité, alors qu'on m'accuse d'être un menteur permanent. Eh ben non, quand j'ai parlé à Jennifer, ben j'ai menti aussi, puisque j'ai menti.
Donc ce que vous voulez dire, c'est qu'il peut faire, il peut encore faire des zigzags.
Eh ben oui, et il peut jouer encore une fois de la vérité au mensonge et de la réalité à l'hypothétique.
Et visiblement, il est tenu par ses avocats. C'est-à-dire que là, les avocats lui ont mis un couloir droit, un couloir gauche.
Il faut pas bouger.
Et il faut pas bouger. Et voilà, la question que je me pose, mais on se l'est posé ensemble là aussi, c'est est-ce que ces avocats ont une stratégie maintenant, une nouvelle stratégie, on a tous compris ce qui est en train de se mettre en place, mais lui, il va falloir qu'il joue aussi, il va falloir qu'il joue son rôle. C'est-à-dire que ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, c'est se taire, ne rien dire, baisser la tête et ne pas répondre aux questions. Est-ce que la préparation, elle est possible? Est-ce qu'on va avoir une nouvelle personne dans le box qui va faire entendre sa voix, qui va se lever, qui va parler, qui va dire je suis d'accord avec ça, ça je l'ai fait, ça je l'ai pas fait. Est-ce qu'on peut se transformer comme ça?
Non, encore une fois, c'est toujours la même personne et il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur lui.
Est-ce qu'il peut apprendre?
C'est même pas qu'il va apprendre, c'est en lui. Mais il sait exactement comment il doit se comporter, ce qu'il doit dire. Il est beaucoup plus malin et beaucoup plus stratège qu'on peut l'imaginer. Non, je vous assure, c'est toujours la même personne et vous serez surpris de voir la posture qu'il adopte sans aucune difficulté, remords ni regrets. Ça fait partie de sa personnalité, c'est ce qu'on a l'habitude de voir chez les prédateurs.
Moi, je voudrais simplement qu'on referme cette émission avec une pensée pour les enfants et la famille de Delphine Ossager, on l'a dit. Johanna, viendra le temps du deuil. À écouter Mourad Batik, ça va être compliqué, mais ces enfants, ils ont besoin d'une sépulture, ils ont besoin d'un endroit pour se recueillir, pour penser à leur maman. Et je voudrais qu'on ferme cette émission justement en ayant un mot pour eux.
Oui, évidemment, une énorme pensée pour les enfants de Delphine qui sont finalement doublement orphelins, et à tous les enfants en France qu'on peine à entendre, qu'on peine à accompagner et qui sont toujours en train de cohabiter avec leurs agresseurs. Si vous êtes témoin de violence, si vous avez même une once de suspicion, que vous entendez des cris, les voisins, même à l'école, des enfants qui se renferment, qui vont moins bien, je vous en supplie, vaut mieux se tromper dans ce sens-là. Appelez la police, appelez la gendarmerie, appelez le 119, le 119, c'est même pour les enfants, ça ne figure pas sur les relevés téléphoniques, c'est gratuit, je vous en supplie, quand il s'agit d'enfants et de femmes, ne prenez aucune précaution.
Merci beaucoup Johanna, merci à tous de vos lumières, de vos remarques, de votre expertise, merci pour cette saison Dominique, passée à vos côtés. Affaire suivante, reviens à la rentrée.
Absolument, on peut dire un petit mot à tous ceux qui nous écoutent, merci d'être avec nous chaque dimanche, on vous aime. C'est un bonheur de vous avoir en face de nous, parce que c'est comme si vous étiez avec nous ici. Donc, on vous aime et merci d'être avec nous chaque dimanche. Et merci d'avoir préféré l'original sur BFM TV à la copie. J'y reviens, mais c'est important de le dire.
J'ai le droit de suite. Et pour ne pas se quitter si vite, merci François Daoust aussi qui est à distance et qui n'a pas pu être là aujourd'hui et qui nous a accompagnés tout au long de cette saison.